Et pour parler tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Jean-Pierre Petit. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Raphaël.
Président des Cahiers Verts de l'économie, face à vous Olivier Luanci. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Professeur au CNAM, auteur de Réindustrialiser, le défi d'une génération, et Gilbert Sette. Bonjour Gilbert.
Bonjour.
Professeur d'économie à Neoma Business School, auteur de Sauver la démocratie sociale avec Guy Grou et Richard Robert aux éditions Kalman-Lévy. Premier sujet ce matin, on va tirer les conséquences de la situation en Iran. Quelle perspective économique après le cessez-le-feu annoncé cette semaine? On va aussi parler du G7, bien sûr, qui ferme ses portes aujourd'hui, du dîner à Versailles ce soir avec Donald Trump. On parle IA aujourd'hui au G7, beaucoup. D'abord, pour... premier tour de table pour voir ce que vous pensez de cet accord dont on ne sait pas tout encore. Hein. On verra vendredi ce que donne la signature, mais qui gagne, qui perd suite à cet accord, Jean-Pierre?
On ne sait pas grand-chose en fait, hein, parce qu'il n'y a pas eu de communiqué officiel. On sait que ce que raconte la presse, notamment la presse américaine.
Oui.
Donc il ne s'agit que d'un protocole d'accord, hein, parce que les gens disent.
On a 60 accord, jours pour négocier. Dans
voilà, ouais. Les gens disent accord de paix, non. C'est un protocole d'accord. Donc on sait d'après. La presse que il y aurait un avancement à la fois sur le stock d'uranium enrichi et des engagements éventuels sur l'enrichissement futur. Voilà, ça on le sait. On sait qu'il y a un allègement des sanctions qui date de 1979 ou des années 80 à l'encontre de l'Iran, notamment des déblocages d'avoirs iraniens qui sont gelés aux États-Unis depuis très longtemps.
Quelques milliards.
Voilà. Et par contre, il semble qu'il n'y ait pas d'avancement sur le démantèlement des missiles balistiques. Il semble qu'il n'y ait pas d'avancement sur l'aide de l'Iran aux proxys de la région, c'est-à-dire le Hezbollah, les milices chiites d'Irak, les Houthis, etc. Oui, j'ai oublié quand même qu'un point, c'est la libération du détroit quand même.
Oui,
c'est quand même assez important. Alors, moi, je suis très prudent là-dessus.
Ce qui nous intéresse ici, pour le pétrole.
L'Iran, depuis 79, il était imbriqué dans plusieurs conflits. Je parle même pas de l'Iran contre l'Irak. Ça a duré 8 ans. C'était un bain de sang. C'était terrible. Mais dans l'histoire longue, l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup de conflits qui durent très longtemps. Je vais pas remonter à la guerre de 100 ans, à la conquista, etc., à la reconquista, etc. Mais même dans la période contemporaine d'après 45, il y a une étude du FMI qui est pas mal, qui a été faite dans le dernier World Economic Outlook, qui montre qu'au bout de 5 ans, il n'y a que 40% des conflits qui sont définitivement résolus. Donc ça redémarre.
Et dans le cas moins de la moitié.
Et dans le cas de l'Iran, qui est conflictuel parce qu'il y a un régime un peu spécifique depuis 79, ça m'étonnerait. Surtout qu'on ne connaît pas exactement la réaction d'Israël, qui n'est pas, à mon avis, complètement convergente avec les États-Unis, et qu'on ne sait pas qui vraiment gouverne l'Iran.
Donc beaucoup d'incertitudes, ça va avoir des conséquences économiques, tout ça. Ouais. Simplement sur le détroit d'Ormuz, Olivier Luanci, on voit que ça commence à bouger un petit peu aujourd'hui, les navires.
Bah oui, ça va rassurer un peu tout le monde. Notamment, hein. Il y a quelques navires qui sont passés, le blocus américain semble être à peu près levé dans un climat de grande incertitude. Donc l'inquiétude qu'on avait, c'était des stocks stratégiques qui étaient descendus à des niveaux extrêmement bas. Déjà, c'est pas très long, hein, un stock stratégique, hein, c'est quelques mois, je vous rappelle, globalement. Et donc,
je vous arrête un point sur ces réserves stratégiques. On a quand même connu un conflit. Le détroit d'Ormuz, c'était la situation la plus grave chez les prévisionnistes en termes de marché du pétrole. Il a jamais dépassé les $115, alors qu'on disait que ça pouvait être du $150-$200 le baril. Qu'est-ce qui fait que le pétrole n'a pas flambé comme ça, Olivier Luanci?
Alors, j'aurais pas une explication complète et exhaustive, faudra le regarder un peu avec un peu de recul, mais je pense que le fait qu'on ait pompé dans ces stocks stratégiques a permis de relibérer de la quantité sur le marché. Encore une fois, je crois qu'on a fini, on est autour de 30 jours aujourd'hui de stocks stratégiques.
C'est très peu.
C'est très très peu. Le mot stratégique et 30 jours, c'est un peu une antinomie sémantique. Hein.
Ouais.
Voilà. Et puis le deuxième message, je crois qu'il faut en tirer, enfin, outre l'incertitude sur ce cas-là, encore une fois, signer la paix, ce n'est pas l'affaire.
Oui.
Un cessez-le-feu.
Reste très fragile.
La paix, c'est bien pas être en paix et en bonne intelligence avec ses voisins. Le message que ça va donner à l'ensemble de notre tissu économique et nos industriels, c'est qu'on est véritablement dans un monde d'incertitude.
Ouais.
C'est pas la première. Et la question qui va se poser, c'est quand la prochaine crise, quoi.
Ouais. Gilbert, oui. Ça a des conséquences sur la croissance française, tout ça. On pourrait se dire, bonne nouvelle, le pétrole est sous les 80 dollars, l'inflation va rebaisser, non,
plusieurs choses
croissance
sur la
va
croissance.
Repartir. Ça n'est pas ce que dit la Banque de France.
Il faut bien, bien être conscient que on est dans une situation de suspension du conflit. C'est un peu comme pour la réforme des retraites. Hein. Il n'y a pas un arrêt.
Un monde suspendu.
Voilà, c'est un monde suspendu. Et on ne sait pas si les choses peuvent repartir dans deux mois, voire dans l'intervalle, et ensuite. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, sur la situation économique. Évidemment, il va y avoir une détente sur les prix de l'énergie, qui s'est déjà d'ailleurs manifestée sur les marchés. Mais, des capacités de production ont été détruites.
Oui.
Ont été détruites. Et des capacités
de production. On n'y voit pas clair, hein, d'ailleurs, sur le temps qu'il faudra pour reconstruire ces capacités.
Certains disent des mois, sinon des années. Oui. Sinon des années. Donc, il est tout à fait possible et envisageable que les prix de l'énergie restent à un niveau supérieur à ce qu'ils étaient avant le conflit.
Ça, je rappelle qu'on était à 60 et 70 dollars au mois de février.
Ça a d'ailleurs été le propos 65. Du nouveau gouverneur de la Banque de France, oui. dans ses propos à la presse récemment. Donc, faut pas rêver. On va pas revenir à une situation qui était celle d'avant le conflit.
On n'aura pas de baisse à la station, là, pour les vacances.
On aura évidemment une baisse à la station. Mais il est pas du tout certain, voire il est improbable qu'on retourne au niveau qu'on connaissait avant ce conflit, avant la fin février.
Oui.
Donc, le prix du pétrole pourrait continuer à handicaper la croissance, à brider la croissance. Ce dont d'ailleurs, d'une certaine façon, de nombreux économistes se félicitent en disant c'est l'équivalent en termes d'effet d'une taxe carbone.
Qui a formidablement bien fonctionné, voilà, et sur les ventes de voitures électriques et sur la consommation.
Alors maintenant, sur le fond des choses,
du carburant à la pompe,
l'accord qui est évoqué parfois dans la presse avec beaucoup d'incertitudes, comme l'a dit Jean-Pierre tout à l'heure.
Oui.
On va revenir à une situation peut-être pas meilleure que ce qu'on connaissait avant en termes de garantie vis-à-vis de l'Iran, et peut-être moins bonne que celle qui était convenue dans l'accord de 2015. Dont les États-Unis sont sortis. Donc c'est assez curieux comme situation. C'est-à-dire les garanties.
Donc quand je disais les gagnants, les perdants, l'Iran gagnante.
Attends, l'Iran peut être gagnante et un risque nucléaire qui ne serait pas complètement levé. On a vu qu'en 2015, l'accord ne le levait pas complètement. Et il est possible qu'il ne soit pas complètement levé. C'est-à-dire un conflit potentiel, une bombe à retardement dans cette zone du monde qui restera toujours présente.
Jean-Pierre.
Juste un point, je vais essayer de répondre à ta question, parce que tout à l'heure tu disais pourquoi le prix du baril n'est pas monté à 150 ou 200. Alors il y a eu l'utilisation des réserves stratégiques, d'ailleurs c'est très important parce que les réserves stratégiques n'avaient pas été reconstituées depuis qu'elles avaient été utilisées au moment du démarrage de la guerre d'Ukraine, il y a 4 ans. Déjà, elles étaient pas remontées au niveau pré-guerre d'Ukraine. Donc là, elles sont redescendues, pas par définition, hein, puisqu'on les a utilisées.
Oui.
Mais il y a aussi, sur les 20, parce qu'on disait souvent, il y a 20 millions de barils jour qui passent dans le golfe Persique, au détroit d'Ormuz.
Oui.
Mais on avait oublié qu'il y avait des oléoducs qui sont utilisés par l'Arabie Saoudite, les Émirats et même l'Irak. On a libéré aussi le pétrole qui était stocké sur les cargos russes.
Etc. Donc le marché s'est adapté, c'est ce que vous dites, Jean-Pierre.
C'est ça. Donc on n'était pas.
Il n'y a pas eu de pénurie, finalement.
Non. On n'était pas sur 150, ou alors juste pour pour quelques instants à cause de phénomènes purement militaires ou autres. Hein. Donc voilà. Et aujourd'hui, si on libère vraiment le détroit d'Ormuz, selon notre modèle, parce qu'après, sur l'équilibre offre-demande, faut pas oublier que la demande a baissé. C'est ce qu'on disait juste à l'instant. D'abord,
la demande mondiale est toujours, on est toujours à 80% d'énergie carbonée au niveau mondial. Hein, ça.
Quand le prix du baril augmente.
Le niveau du PIB a été affecté, quoi. La croissance a été affectée. Il y a moins de demande.
Voilà. On a perdu environ 6 dixièmes de croissance. On était à 3% au niveau mondial. Ah oui. On est à 2,4 actuellement. Donc, la demande est plus faible. Et d'ailleurs, il y a une élasticité prix qu'on voit très bien dans le transport aérien, qu'on voit aussi dans la consommation automobile. Donc, moi, je pense quand même qu'on va revenir. Enfin, si. Ça va être chaotique, il va y avoir des tensions sporadiques, mais on peut revenir vers 70 à 75 au T4 de cette année. Pour nos prévisions, c'est notre
hypothèse. Le baril, on n'est pas là, on est sous les 80, là. Hein.
Attends, c'est très volatile, hein. Faut prendre des moyennes, hein, parce que faut pas prendre des données quotidiennes.
Sous les 80. Ouais. Emmanuel Moulin, nouveau gouverneur de la Banque de France, évoque 97 sur l'année. Ah bah sur l'année, ce matin, oui, chez nos confrères des Échos, me semble-t-il.
Non mais sur l'année.
Semble, oui,
sur l'année.
Oui. Enfin, sur l'année. Si on retombe à, on a commencé à 60, si on retourne à 60 ou 70.
Avec des moments où on était à 100.
Mais il y a eu des pics, effectivement. La question que je vous pose ce matin, à vous trois messieurs, c'est est-ce qu'on va éviter la récession? On était tout droit parti pour. Je rappelle, révision de l'INSEE au premier trimestre, -0,1. Le deuxième trimestre va pas être bon. Est-ce qu'on évite la récession technique avec la fin de la guerre, Olivier Lanzi?
Ça, je ne saurais pas le dire. Peut-être que
non, les prévisions
les
de la
deux
de France,
acolytes hein. vont avoir un point de vue plus ferme que moi sur le sujet. En revanche, on n'échappera pas à une révision budgétaire qui va être massive et extrêmement douloureuse. Ça me semble absolument évident. Et je ne sais pas, dans le contexte actuel qui est celui du Parlement, son majorité, ouais, et des échéances présidentielles qui s'approchent, comment on va gérer ça. Moi, ça me semble... On a un sujet tout à l'heure sur les charges salariales, c'est très bien, mais on sait que le sujet, c'est pas de répartir la rareté. Le sujet, c'est comment on crée plus de richesses et comment on arrive à limiter nos dépenses budgétaires. Et ce sujet-là va nous, je dirais, sauter au visage comme une cocotte minute qui explose une nouvelle fois.
Gilbert, un commentaire sur les prévisions de la Banque de France.
Oui, c'est ces prévisions qui ont été publiées hier nous donnent 0,5 pour cette année et 0,9 pour l'année prochaine. Les prévisions officielles...
C'est un sacré coup de rameau quand même. Hein. Je rappelle qu'on était à 0,9 pour 2026.
Les prévisions officielles
quasiment sont à
0,9 et 1% pour l'année prochaine. Donc c'est aussi un petit peu à la baisse pour l'année prochaine. C'est-à-dire que par rapport à ce qui était anticipé comme effort à faire par le gouvernement et par le Premier ministre, eh bien le trait est accentué. C'est clair. C'est clair, si on veut respecter nos engagements et toucher les 5% du PIB de déficit, ce qui déjà n'est pas vraiment glorieux.
Oui,
hein,
oui, on est en queue
aux autres pays, donc c'est une ambition qui n'est pas démesurée par rapport à la situation financière et budgétaire des autres pays. Mais pour atteindre ça, les efforts sont énormes. Les lignes à couper sont énormes.
Ça veut dire qu'il va falloir davantage d'économies ou de hausse d'impôts.
Mais la discussion budgétaire va être difficile. Le Premier ministre est intervenu il y a deux jours pour faire savoir qu'il ne voulait pas ni de hausse d'impôts, ni d'année blanche.
Et il a poussé un petit coup de gueule, le Premier ministre, ses ministres, en disant « j'ai 30 milliards de propositions de hausse de dépenses ».
J'entends bien, mais d'un autre côté, il dit « pour remplir mes objectifs budgétaires, il n'y aura pas d'année blanche et d'augmentation d'impôts ». Donc, sur augmentation d'impôts, il y a un petit peu de flou, parce que est-ce que la disparition d'une niche, qui comptablement est une augmentation de l'imposition, est-ce que c'est une augmentation des impôts, puisque le taux facial, en quelque sorte, lui, ne change pas. Donc, il y a un petit peu de flou là-dessus.
Il n'y aura pas de hausse d'impôts dans le texte original du projet de loi de finances, mais il va laisser l'Assemblée nourrir tout ça.
Néanmoins, pour atteindre les 5%, il va bien falloir couper dans certaines dépenses, et sans aller jusqu'à une année complètement blanche, on pense bien sûr aux dépenses sociales.
Il dit priorité à aux dépenses de maladie.
Et puis, du côté des impôts, il va falloir faire quelque chose, même si c'est via la disparition de certaines niches, et Dieu sait si l'inventivité française a été forte en matière de niches.
Jean-Pierre.
Oui, je me souviens, Raphaël, au mois de mars, tu m'avais posé la question de l'impact de la guerre d'Iran sur la croissance. Je t'avais dit qu'on était passé de 1,1 en zone euro à 0,6. Ouais. Et tu trouvais que c'était beaucoup. Maintenant, je suis à 0,4. Ouais. Hein, voilà. Et sur la France, j'avoue que je ne sais plus très bien, mais on doit être à 0,3 à peu près. Donc après, récession technique au sens de deux trimestres consécutifs de légère baisse.
On s'en fiche, c'est pas grave, on n'est plus à la...
Ça ne change pas grand-chose. On est à 0. Mais tout va assez mal en Europe, d'une manière générale, l'Europe continentale et le Royaume-Uni. Les intentions d'embauche chutent. Les conditions de crédit, les conditions financières sont déjà resserrées à cause du discours, enfin en partie à cause du discours de la BCE, qui rend d'ailleurs la dernière décision de la BCE encore plus ridicule, si je puis dire. Je l'avais critiqué.
Alors c'est la question que j'allais vous poser, augmenter les taux au moment où la crise se termine.
On en a déjà pas mal parlé ici. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre en termes de politique budgétaire. Donc il n'y a pas beaucoup d'éléments
qu'elle s'accrochait. Ouais.
Voilà, simplement la nouvelle là de la baisse du prix baril est quand même va donner un petit peu d'oxygène là. Voilà, elle va peut-être même sauver le T2. Pourquoi pas? Parce que les prix avaient déjà commencé à baisser un petit peu avant.
T2.
Ah, le T2, de toute façon, il sera assez plus.
Fait.
Je suis d'accord.
T2.
Oui. Ouais, il est quasiment fait. Oui, je suis d'accord. Donc en fait, ça va pas changer grand-chose. Disons que le S2.
Ce qu'on disait beaucoup quand même, c'était que le plus dur était devant nous, que la croissance allait être catastrophique en fin 2026 et 2027, etc. Est-ce que, alors, on dirait la Banque de France ralentit ses prévisions, vous venez de le dire, Gilbert Sept, pour 2027. Mais est-ce que l'horizon ne s'éclaircit pas un tout petit peu? Enfin, tu as tendance à dire que c'est une bonne nouvelle, la fin de la guerre, non? On peut se dire que...
La suspension de la guerre.
La suspension, c'est vrai. La suspension, un monde en suspension.
Non, mais c'est plus de la guerre de haute intensité, comme disent les géopoliticiens.
On reste dans un environnement gloomy, je ne sais pas comment qualifier, mais
incertain.
Olivier Lanty.
Oui, oui, exactement. Incertain.
Moi dire.
Ah, tout à fait.
Moi dire.
Il y a une fatigue des acteurs économiques. Encore une fois, nous, on regarde les agrégats macroéconomiques. On parle de l'inflation du pays, du PIB, etc. Cette richesse, elle ne vient pas de nulle part. Elle est créée par les entreprises. Il y a une certaine fatigue cumulée.
Une résistance aussi. Le côté positif de tout ça, c'est la résistance incroyable des entreprises qui
se sont adaptés aux crises, etc.
Des PME.
Mais ça génère quand même une fatigue. Je regardais sur une des branches, le souhait de transmettre des entreprises familiales à des enfants, qui est quand même un signal d'engagement
qu'il va y en avoir beaucoup.
Extrêmement fort, atteint des taux de faiblesse en disant non, je veux pas, c'est trop dur. C'est trop dur d'être patron d'une TPE industrielle aujourd'hui ou d'une PME industrielle. Donc oui, il y a une résistance, oui, il y a une capacité d'adaptation, mais oui, il y a une fatigue. Encore une fois, Je regarde plutôt l'aspect microéconomique et celui-là pose aussi d'autres questions, notamment en absence de projet, parce que oui, c'est gloomy, oui, ça peut être difficile, mais si on savait où on allait au moins.
Oui, parce que l'incertitude dont on a parlé, l'incertitude géopolitique, mondiale, etc., sur ce qui peut se passer au Moyen-Orient, mais c'est aussi une incertitude française. C'est-à-dire, l'incertitude est accrue en France, compte tenu des difficultés parlementaires, de prise de décision.
Il ne se passe plus rien en même temps. Donc
l'incertitude est accrue par le fait que...
On est à peu près certains de ne pas bouger d'ici l'année prochaine.
Oui, mais l'effort que nous allons devoir faire est accentué. Enfin, la difficulté, en tout cas, est accentuée. Et comment on va le faire? En termes d'imposition, en termes de dépenses publiques. Donc les acteurs économiques, aussi bien ménages qu'entreprises, se disent à quelle sauce je vais être mangé. Quand on voit que le taux d'épargne des plus de 65 ans a considérablement augmenté sur l'époque récente. Évidemment, on ne peut pas associer ça, on peut pas ne pas associer ça aux incertitudes.
Il y a une confiance des ménages au plus bas.
Quoi qu'on pense de ce qui doit être fait sur les retraites, mais il y a beaucoup de ménages retraités qui se disent à quelle sauce je vais être mangé. C'est légitime de se poser cette question, à quelle sauce je vais être mangé dans les deux années qui viennent en termes de fiscalité. Donc l'incertitude est accrue par cette atmosphère économique plus gloomy, pour reprendre le mot qui a été utilisé tout à l'heure.
À quelle sauce va être mangé Kevin Warsh ce soir, Jean-Pierre Petit? C'est sa première conférence au nouveau patron de la Fed. Est-ce qu'il peut réellement baisser les taux alors que l'inflation américaine est à quoi, 4,2 là?
Oui, mais bon, c'est un effet aussi en glissement annuel du fait de l'augmentation du prix de l'énergie. Sachant que...
On est quand même à un plus haut de 3 ans. Bon.
Sachant que la croissance américaine est plus élevée que ce que pensait le consensus à nouveau. Enfin, je veux dire, elle n'arrête pas de nous surprendre à la hausse. Nous, on est resté à 2,4% de croissance. Le consensus est à 2,1. Et c'est même pas impossible qu'on dépasse même les 2,4. Il y a quand même des choses tout à fait exceptionnelles qui se passent aux États-Unis. La profitabilité qui se maintient. Moi, quand j'analyse les cycles américains que j'ai connus depuis une trentaine d'années, quand la profitabilité est très élevée aux États-Unis, on coupe pas le capex, on coupe pas l'emploi. Et d'ailleurs, vous avez vu que l'emploi a redémarré à nouveau aux États-Unis. Quant aux dépenses capex, n'en parlons pas, parce que là,
les dépenses d'investissement,
c'est des croissances à deux chiffres. La productivité, regardez les chiffres de productivité depuis 3 ans. Alors la productivité sur un ou deux trimestres, on s'en fout, ça veut rien dire. Mais sur 3 ans, ça veut dire des choses. Et d'ailleurs, c'est pas tellement l'IA. C'est la numérisation qui a connu une explosion au moment de Covid. L'IA, c'est plutôt à venir, si je puis dire. Voilà, il y a des choses tout à fait exceptionnelles. Et puis il y a l'extraordinaire bonne attitude de la Réserve fédérale par rapport à la BCE. Cette année, beaucoup de gens se posaient aussi la question du pouvoir d'achat du ménage américain, mais les baisses d'impôts compensent le choc négatif
inflationniste. Volume. Ah bon?
Parce qu'ils disent, c'est la loi de finances qui a été votée l'été dernier.
Début d'année. Hein.
Donc la croissance américaine résiste très fort. Alors, tout ça pour te dire quoi sur la Fed? Warsh, évidemment, il est nouveau, c'est un nouveau président de la Fed, donc on se pose toujours des questions. Mais évidemment, en fait, fondamentalement, pour l'instant, c'est plutôt statu quo quand même. Sur les décisions de taux, il n'y a pas vraiment de raison de baisser les taux.
Le consensus,
quand on voit
c'est
les
quoi,
chiffres d'emploi.
Une ou deux baisses,
non, mais Jean-Pierre,
tu ne peux pas
non plus écarter le constat que la situation budgétaire américaine et n'est pas, disons, exemplaire.
Tu sais bien qu'ils s'en foutent.
C'est une litote.
N'est pas exemplaire en termes de déficit, en termes d'évolution de la dette.
Ils sont comme nous.
Donc, Ils sont un petit peu plus que nous.
Ah non, oui, non, non, il faut attention. La dette publique américaine comparable à la dette publique française au sens d'Eurostat est à peu près comparable à celle de la France.
Mais le déficit en ce moment est plus élevé.
Oui, non, ok, mais
plus de 10 milliards.
Non, mais attends, la croissance potentielle est au moins le double de nous.
Je suis. Voilà. Mais double quand c'est pas grand chose, tu vois. Voilà, deux fois pas grand chose,
ça fait toujours pas grand chose.
Non, sur 10 ans, sur la soutenabilité à 10 ans, c'est énorme.
Le point sur lequel je suis complètement d'accord, c'est que c'est un point absolument marquant. C'est des travaux qu'on mène avec d'autres, avec Antonin Bergeau,
sur la productivité
américaine, ouais. Voilà, et le décrochage, voilà, il faut le dire, le répéter sans cesse, l'Europe décroche vis-à-vis des États-Unis, ouais. Et ça c'est catastrophique, évidemment, en termes de perspective.
Parce que c'est toujours aussi vrai depuis la révision.
C'est depuis, effectivement, plusieurs années.
Depuis la révision, on a quand même doublé quasiment, on a plus que doublé la prévision, la croissance 2023. Est-ce que ça ne change pas un peu la photographie sur la productivité française ?
C'est bien dit dans un blog récent, on reste à quasiment 4,5 points de niveau de productivité.
En dessous
du trend sur lequel on était avant Covid. Non, nous sommes en Europe le pays qui, depuis la fin de l'année 2019, a en cumulé les performances en termes de productivité les plus mauvaises. Le grand pays d'Europe...
Pourquoi ?
Et pourquoi ? Pour plein de raisons, entre autres, des bonnes raisons. Le développement de l'apprentissage, c'est de bonnes raisons. Ça en explique évidemment une partie. Il y a des transformations sectorielles qui en expliquent aussi une autre partie. Mais il y a une partie qui reste inexpliquée dans ce décrochage particulier de la France par rapport aux pays européens, sachant que l'ensemble de l'Europe et ses autres pays européens décrochent eux-mêmes par rapport aux États-Unis. Donc il y a une situation...
Donc la France décroche mauvaise. Dans un ensemble qui lui-même est décroche. En train de
voilà.
décrocher.
Exactement.
C'est le décrochage au carré.
Exactement.
Et finalement, le monde n'est pas tant en suspension que ça. Peut-être qu'on s'enfonce. Olivier Lancy, un commentaire.
Oui, cette explication... Alors d'abord, la révision permet d'expliquer une partie de la perte de productivité qui était un artefact statistique. Ok, celui-là, il est nettoyé. L'autre partie reste quand même assez étonnante et à creuser. Notamment parce que dans cette révision-là, on voit que l'investissement est resté relativement élevé.
Et oui, notamment dans l'industrie.
Sur le sujet qu'il s'effondre dans l'environnement qu'on a décrit, d'incertitude, de perte de confiance, etc. L'investissement est resté relativement correct, en tous les cas stable. Et donc, on aurait pu espérer que derrière cet investissement, il y ait des investissements de productivité qui se traduisent dans les chiffres. Et aujourd'hui, on ne le voit pas réellement, même si, encore une fois, le message d'alerte maximum qu'il y avait auparavant est un peu modéré quand même par cette correction statistique.
Bon.
Je voudrais juste revenir juste deux secondes sur ce que tu disais, Gilbert, sur la dette publique américaine, parce que ça pourrait avoir des conséquences mondiales si les taux d'intérêt montaient, etc. Moi, la croissance potentielle est plus forte, ça, on le sait, au moins un point et probablement plus. Le taux de prélèvement obligatoire est structurellement beaucoup plus faible. Et un jour, les démocrates vont venir au pouvoir, soit au Congrès, soit à la présidence, et c'est eux qui augmentent les impôts, historiquement, Roosevelt, Truman, et même Clinton, on l'a un peu oublié.
Tu veux dire.
Clinton, au début des années 90, a augmenté les impôts. Voilà. La croissance potentielle est plus élevée. Les dépenses liées au vieillissement sont beaucoup plus faibles que chez nous. Si tu prends Social Security, Medicaid, Medicare, c'est beaucoup plus faible que nos dépenses d'assurance maladie ou de
c'est
retraite.
Ce qui explique quand même beaucoup la hausse du déficit américain.
Voilà. Oui, mais c'est plus faible que... Oui, non, mais ils ont plus de marge de manœuvre que nous, c'est ça que je veux dire. Et quatrièmement, le dollar, qui, quoi qu'on dise, reste la devise numéro un. En termes d'instruments de réserve.
Donc, c'est notre monnaie, c'est votre problème.
La dette fédérale américaine.
Non, mais là, je suis d'accord avec Jean-Pierre, c'est qu'ils en ont sous le pied en termes de prélèvement fiscal.
Si on se compare. C'est le moins qu'on puisse dire.
Si on compare les États-Unis par rapport à certains pays européens.
Je pense qu'il y a 20 points d'écart.
Dans la France.
Sur les prélèvements publics, il y a 20 points d'écart avec la France.
Ça, c'est vrai qu'ils en ont sous le pied. De ce côté. Bon.